Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez graphite94.net ou sur le web graphite.net. Et on se retrouve pour la suite des émissions que vous ont préparées les étudiants et les étudiantes de WE01, une UV enseignée à l'UTC qui questionne les enjeux autour du web et du numérique. Donc pour cette émission, on est en direct avec quatre étudiants et étudiantes. On va commencer avec vous, Roman et Emilio, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et donc voilà, tout le semestre, vous avez travaillé sur différents articles de presse et de recherche. Vous avez étudié, vulgarisé des concepts qu'on a vus en cours. Et puis vous avez produit des articulations, des liens entre tout ça. Et donc voilà, aujourd'hui, vous allez notamment nous parler de la folle histoire d'Internet et du web. C'est à vous.
Oui, donc, bonjour à tous et à tous. Dans le cadre du module WE01 des cultures scientifiques de l'Université Technologie de Compiègne, nous avons réalisé un podcast consacré à l'histoire et au fonctionnement d'Internet. Pour ce travail, nous nous appuyons sur un article publié en 2019 par les journalistes Vincent Herrmann intitulé « Internet, retour sur 50 ans d'une folle histoire ». Dans ce texte, il revient sur les grandes étapes de la construction du réseau et sur les choix techniques qui ont rendu possible son développement à grande échelle. Bon, dans les cours, l'un des concepts clés pour comprendre l'Internet est celui de la décentralisation. Il repose sur une idée simple. Internet n'est pas contrôlé par un centre unique. Son fonctionnement, ses règles techniques et son évolution reposent sur une multitude d'acteurs répartis dans le monde. Nous allons donc proposer une lecture de l'article de Vincent Herrmann à travers ces concepts. Et Roman, est-ce que tu peux nous parler de cet article ?
Oui, l'article revient d'abord sur les origines d'Internet, dont l'histoire commence à la fin des années 1960 avec ARPANET. Il s'agit alors d'un réseau financé par la DARPA, une agence de recherche du département de la défense américain, et développé principalement par des chercheurs dans les universités américaines. Le contexte est important. En pleine guerre froide, l'objectif est de concevoir un réseau capable de continuer à fonctionner même si certaines de ses parties sont détruites ou inaccessibles. Cette contrainte va fortement influencer son architecture. Le 29 octobre 1969, un premier échange a lieu entre deux universités, l'UCLA et Stanford, qui font partie des tout premiers nœuds du réseau. Les chercheurs tentent d'envoyer le mot « login » qui signifie « se connecter », mais la connexion s'interrompt après les deux premières lettres. Le premier message transmis est donc simplement « l'eau ». Ce moment est souvent présenté comme symbolique, même si ARPANET n'est pas encore Internet au sens strict. Dans les années 1970, de nouveaux réseaux apparaissent, universitaires, militaires ou internationaux. Ces réseaux utilisent parfois des règles différentes pour échanger des données. L'enjeu devient alors de permettre à ces réseaux hétérogènes de communiquer entre eux sans imposer une autorité centrale. C'est donc dans ce contexte qu'émerge l'idée d'un réseau de réseaux. Ces idées se concrétisent avec l'adoption des protocoles TCP/IP généralisés en 1983. Un protocole peut être vu comme un langage commun ou un ensemble de règles partagées. Une analogie simple serait le code de la route. Tant que tous les conducteurs respectent les mêmes règles, la circulation fonctionne, même sans chef unique. TCP/IP permet précisément aux données de circuler entre des différents réseaux sans centre de contrôle. Dans les années 1990, l'article évoque un autre tournant majeur, l'invention du World Wide Web, par Tim Berners-Lee et Robert Caillot au CERN. Le web n'est pas Internet, mais une application qui repose sur Internet. En proposant des pages reliées entre elles et accessibles via des navigateurs comme Mosaic, il rend l'utilisation du réseau beaucoup plus simple et accessible au grand public. Enfin, l'article décrit comment Internet se développe à grande échelle. Ouverture à de nouveaux acteurs, extension des infrastructures physiques comme les câbles sous-marins et augmentation massive du nombre d'utilisateurs. Herrmann montre ainsi comment un projet de recherche devient progressivement un réseau mondial.
Podcast France Culture.
Une histoire politique d'Internet, un podcast de Julien Lebotte. Épisode 1, 1969, on a parlé sur les réseaux. Personne ou presque ne sait raconter l'histoire d'Internet. Et je vais vous raconter pourquoi. Aujourd'hui, j'ai 4 boîtes mail, une dizaine de réseaux sociaux, des centaines de notifications par jour. Et j'ai parfois l'impression qu'Internet, qui est entré presque par effraction dans nos vies au cours des années 90, est devenu aussi essentiel que l'électricité ou l'eau courante. En un demi-siècle, Internet s'est imposé comme une nécessité, comme une évidence, et parfois aussi comme un problème, une injonction, voire une menace. Internet est partout, mais son histoire, son fonctionnement, son essence ne sont visibles nulle part. Techniquement, Internet nous relie, mais est-on sûr de ce qu'on construit ?
Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement la décentralisation ?
Dans les cours, la décentralisation est présentée comme un principe fondamental d'Internet. D'abord, Internet n'a pas de centre unique, comme on peut penser. Il fonctionne grâce à des milliers de réseaux indépendants qui coopèrent entre eux. Aucun acteur ne possède l'ensemble du réseau. Ensuite, cette coopération repose sur des protocoles ouverts. Ces protocoles sont publics, documentés et utilisables partout. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Par exemple, un ordinateur sur Linux peut communiquer avec un serveur géré par une entreprise américaine ou un smartphone envoyé en email vers n'importe quel autre appareil, sans accord préalable entre les fabricants. Enfin, ces règles techniques ne sont pas fixées par un État ou une entreprise unique et s'évoluent dans des espaces de discussion ouvertes comme l'IETF. L'IETF, c'est un des organismes majeurs des conceptions des protocoles. C'est notamment à travers lui qu'il s'élabore et s'améliore des protocoles sur lesquels repose l'ensemble d'Internet. Son fonctionnement est typique de l'esprit hacker des débuts de l'informatique. Participation ouverte à tous les individus, mais pas aux entreprises, uniquement sur la base du bénévolat et des décisions prises au consensus approximatif. Les propositions des standards qui émanent suivant d'industriels, mais parfois des particuliers, sont sélectionnées en fonction de l'intérêt qu'elles suscitent parmi les membres qui se constituent alors en groupe de travail. Quelques-unes d'entre elles atteignent les statuts de standards d'Internet. À leur tour, ces standards doivent attirer l'intérêt des fabricants de matériel et des concepteurs des logiques pour être concrètement déployés sur Internet. Pour le dire autrement, Internet ne fonctionne pas que parce que ces acteurs parviennent, d'une façon ou d'une autre, à se concerter et à faire émerger des consensus. Il est aussi important de distinguer Internet et le web. Internet correspond à l'infrastructure et au protocole qui transporte les données. Le web est une application parmi d'autres fondée sur HTTP, les navigateurs et les serveurs web. Cette distinction permet de mieux comprendre les tensions entre architecture, technique et usage. Quel est donc le lien entre l'article et les concepts ?
Centralisé.
Un réseau décentralisé est un réseau dans lequel le contrôle, le traitement des données et la prise de décision ne sont pas concentrés en un seul point, mais répartis entre plusieurs nœuds. Contrairement à un réseau centralisé, il permet à chaque participant d'agir indépendamment tout en restant connecté aux autres.
En 1969, 8 ans après que l'idée ait été évoquée pour la première fois, l'ARPANET relie 4 universités américaines de la côte ouest des États-Unis, puis l'année suivante, le lien est fait avec des universités de la côte est. Seulement, si ARPANET est techniquement décentralisé, il s'agit encore d'un réseau unique, contrôlé et financé par une même entité qui ne permet pas d'interconnecter de manière autonome plusieurs réseaux indépendants. Pour cela, il faudra inventer un langage commun, un protocole capable de faire dialoguer différents réseaux, quel que soit leur système ou leur architecture. Ce protocole universel, ce sera TCP/IP. Il sera adopté en 1983 comme protocole standard d'ARPANET, un événement souvent considéré comme la naissance de l'Internet.
Nous venons d'écouter un extrait de l'émission Europod. Et maintenant, à ce stade, on peut affirmer que la décentralisation et l'interopérabilité sont deux piliers majeurs d'Internet. La décentralisation empêche toute prise de contrôle global du réseau, tandis que l'interopérabilité permet une communication universelle entre des acteurs très différents. C'est à partir de ces principes que l'on peut analyser l'écart entre l'architecture technique d'Internet et ses usages actuels. D'un côté, l'infrastructure d'Internet reste largement décentralisée. Aujourd'hui encore, le réseau repose sur des dizaines de milliers de réseaux autonomes gérés par des acteurs différents qui coopèrent sans centre unique. De l'autre côté, certains usages sont forcément concentrés. Par exemple, une très grande majorité des recherches en ligne passe par un seul moteur et une part importante du trafic vidéo par une seule plateforme. De même, une poignée d'entreprises domine aujourd'hui l'hébergement et le cloud, c'est-à-dire les serveurs sur lesquels sont stockés les sites web, les données, les vidéos ou encore les services en ligne. Concrètement, cela signifie que même si le réseau reste distribué, une grande partie des services repose sur des infrastructures physiques comme des centres de données appartenant à un nombre limité d'acteurs. Cette centralisation n'est pas forcément géographique, mais surtout économique et organisationnelle. Les données et les services ne sont pas réunis en un seul lieu, mais leur propriété et leur gestion se concentrent entre les mains de quelques entreprises. On assiste donc moins à une centralisation du réseau qu'à une centralisation de la périphérie du réseau, là où se situent les services et les usages. Cette situation ne signifie pas qu'Internet serait devenu centralisé techniquement. Elle montre plutôt que l'interopérabilité et l'ouverture du réseau ont permis à certains acteurs de s'imposer à l'échelle mondiale. Là où Internet ne segmente pas les marchés, il facilite l'émergence de services globaux capables de capter une grande partie des usages. Ces acteurs disposent aussi de moyens importants pour influencer l'évolution des standards, par exemple en participant massivement aux organismes de normalisation. La décentralisation technique n'empêche donc pas des formes de concentration économique et d'influence. L'article de Vincent Herrmann permet ainsi de comprendre que la décentralisation d'Internet n'est pas un état figé, mais un équilibre fragile entre architecture, usage et acteurs dominants.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer.
Merci beaucoup pour votre intervention, Emilio et Roman. Vous avez choisi une musique qu'on va passer en attendant les questions des étudiants et des étudiantes qui nous écoutent sur en salle de TD, si tout va bien. Et vous avez choisi donc la musique No Dice de Blueworks et Sleep Dealer. À tout de suite. Et de retour sur Graphite 94.9, on a parlé de l'histoire d'Internet et de la décentralisation structurelle hein, des protocoles du réseau Internet. Et une question donc que Jean-Baptiste a posée sur Mattermost, c'est de savoir, eh bien, si Internet à la base est décentralisé, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout passe par quelques grandes plateformes, typiquement quand on est voilà, sur le web, j'imagine.
Alors, merci pour cette question. C'est parce que la décentralisation, elle concerne surtout la technique et moins les usagers. Donc, même si le réseau il fonctionne sans centre unique, rien n'empêche des entreprises de devenir dominantes. En plus, grâce à l'interopérabilité, il est très simple pour des entreprises de toucher le monde entier. Et résultat, c'est les entreprises qui sont les plus efficaces, les plus visibles ou encore les plus rapides qui vont attirer de plus en plus les utilisateurs et qui vont donc devenir quasi incontournables. Donc c'est pas vraiment une contradiction technique, mais c'est plus lié à des conséquences économiques et sociales.
Eh ben, merci beaucoup, Emilio. Tu avais un truc à rajouter, c'est bon, non, pour c'est vous. Super. Ben, merci pour cette réponse intéressante, très intéressante, encore plus qu'elle fait la transition avec le deuxième groupe qui va continuer cette émission. Déjà, bonjour à vous, Myriam et Henri. Bienvenue. Le temps de s'installer, de récupérer tranquillement les micros. Prenez votre temps. Et oui, en fait, je dis qu'elle fait la transition parce que vous allez. En filigrane, nous parler des pratiques des géants du numérique, auxquels faisait référence la question, qui concentrent beaucoup d'usages sur le web aujourd'hui. Et donc, voilà, aussi les thèmes de la centralisation, décentralisation, mais de manière un peu différente. C'est à vous.
Alors, bonjour. Effectivement, nous allons parler de la décentralisation à travers un article que nous avons choisi qui est intitulé « Pixel tracking avec les signaux résilients de Facebook, la surveillance publicitaire évolue », publié en 2021. Nous allons d'abord le résumer, ensuite expliquer le concept de décentralisation à travers notamment la cybernétique. Et enfin, nous allons... essayer d'articuler ce concept avec l'article. Alors tout d'abord, l'article nous explique que la publicité représente près de 98% du chiffre d'affaires de Facebook et pour qu'elle reste efficace, la plateforme a besoin d'informations détaillées sur les utilisateurs. Pour cela, plusieurs stratégies sont mises en place par Facebook pour contourner les lois et réglementations européennes afin de collecter massivement des données d'utilisateurs. Cette collecte permet de proposer des publicités ciblées, adaptées aux goûts et aux habitudes de visionnage de chacun. Les GAFAM, notamment Facebook, trouvent souvent des moyens de contourner les lois visant à la protection des données, en invoquant notamment l'intérêt légitime. L'intérêt légitime, c'est une exception dans la loi qui permet à une entreprise de collecter des données sans demander clairement l'autorisation de l'utilisateur. Évidemment, à condition que ces données soient nécessaires pour faire fonctionner son service. D'après l'article, la collecte des données sert avant tout l'efficacité du service publicitaire. Pour enrichir son écosystème de données, Facebook rachète de nombreuses applications comme Instagram et multiplie les points de collecte via les pixels. Le pixel qui est un outil proposé par Facebook pour donner des informations sur les interactions des visiteurs des sites et sur l'efficacité des publicités, d'après Facebook, mais également avec des kits de boutons sociaux et plugins comme le bouton like, et l'intégration des comptes Facebook et services publicitaires des sites partenaires. Même lorsque les utilisateurs demandent le blocage des cookies ou utilisent des bloqueurs de publicité, aussi appelés adblock, Facebook peut quand même recevoir des données. En effet, ce ne sont pas plus le navigateur ou les cookies qui transmettent les données, mais les sites web visités sites web visités par les différents utilisateurs. Les données sont analysées et peuvent être dissociées de l'utilisateur s'il en fait la demande, mais elles restent conservées. L'ensemble de ces mécanismes permet de construire ce que l'article appelle des signaux résilients, des flux de données capables de continuer à circuler et à nourrir des profils publicitaires détaillés sur des utilisateurs, même face aux limites légales ou techniques. Chaque fragment de signal peut sembler insignifiant seul, mais mis bout à bout, il permet à Facebook de dresser un portrait des comportements et des préférences des utilisateurs. Pour résumer, l'article montre comment Facebook a mis en place un système de collecte adaptatif et résilient, capable de contourner les protections mises en place par les utilisateurs et la réglementation, afin de maintenir la précision de sa publicité ciblée et par extension sa principale source de revenus.
En fait, l'économie de la donnée, le fait de gagner de l'argent en utilisant les données des utilisateurs pour faire de la publicité, pour mettre en avant des contenus, naît du fait que dans cette époque du début du web, il n'y a pas de modèle économique pour les entreprises qui émergent sur le web. Pourquoi ? Parce que les acteurs de l'informatique et du numérique, au départ, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient des logiciels sous forme de CD-ROM, voilà, qu'on achetait, et ils vendaient ensuite une licence annuelle. Voilà, c'était le modèle économique. Or, si vous mettez votre contenu sur le web de manière, je dirais, libre, eh bien forcément, qu'est-ce que vous vendez ? Comment vous faites pour le vendre ? Eh bien, c'est de là que vient l'économie des...
Alors, nous venons d'écouter Ophélie Colello qui explique l'origine de l'économie actuelle des GAFAM.
Par Internet, on entend l'ensemble des infrastructures techniques qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux à travers le monde. Ces infrastructures comprennent notamment des serveurs qui hébergent des contenus ou des services et des routeurs qui acheminent les données d'un point à un autre. Lorsqu'une information circule sur Internet, elle peut emprunter plusieurs chemins possibles en passant par différentes machines réparties géographiquement. Internet a donc un fonctionnement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pôle principal, il n'y a pas une machine centrale à travers laquelle passent toutes les informations. Au début d'Internet, aux États-Unis, les évolutions politiques, sociales, militaires, scientifiques, culturelles et contre-culturelles convergent toutes vers le concept de décentralisation et pensée systémique. Comme l'explique l'historien à Stanford, Fred Turner, dans son ouvrage de 2006, des acteurs très différents, militaires et contre-culture hippies, participent à cette dynamique. D'une part, dans le contexte de la guerre froide, l'armée américaine s'intéresse à des réseaux de communication capables de fonctionner sans point central unique, de manière à rester opérationnel même en cas d'attaque. D'autre part, le mathématicien Norbert Wiener invente la cybernétique, une nouvelle science qui deviendra bientôt un langage universel pour les sciences de l'époque. Elle repose sur des principes similaires à la pensée systémique. Plutôt que d'imaginer des machines fonctionner sous le mode d'un algorithme, c'est-à-dire des entrées, des instructions, une sortie et donc une certaine rigidité liée aux instructions, la cybernétique propose des systèmes où, par exemple, la valeur de l'erreur de la trajectoire d'un missile anti-aérien est réinjectée dans l'entrée de son planificateur de vol, si bien qu'il stabilise sa trajectoire tout seul et dynamiquement. Wiener remarque que certains systèmes, comme le corps humain ou les foules, s'adaptent spontanément. Un principe qui rejoint la pensée de la contre-culture hippie, qui rejetait les organisations trop autoritaires et rigides. Les hippies voient dans les ordinateurs personnels un moyen de rester connectés et de communiquer librement. Quand ces communautés déclinent, Internet est déjà avancé techniquement. Pour certains, il incarne un espace de liberté et de réaction rapide. Et pour l'armée, un réseau résilient. On peut donc penser que ces idées d'adaptation et de décentralisation ont forcément influencé l'architecture d'Internet. En résumé, la décentralisation d'Internet reflète à la fois sa structure technique et les influences historiques, militaires et culturelles qui l'ont façonnée, permettant au réseau de rester résilient et connecté à l'échelle mondiale.
La première fois, l'ARPANET relie quatre universités américaines de la côte ouest des États-Unis, puis l'année suivante, le lien est fait avec des universités de la côte est. Seulement, si ARPANET est techniquement décentralisé, il s'agit encore d'un réseau unique, contrôlé et financé par une même entité qui ne permet pas d'interconnecter de manière autonome plusieurs réseaux indépendants. Pour cela, il faudra inventer un langage commun, un protocole capable de faire dialoguer différents réseaux, quel que soit leur système ou leur architecture. Ce protocole universel, ce sera TCP/IP. Il sera adopté en 1983 comme protocole standard d'ARPANET, un événement souvent considéré comme la naissance de l'Internet.
Nous venons d'écouter un extrait d'Antoine Lheureux expliquant le rôle de TCP/IP, un protocole permettant aux machines de communiquer de façon décentralisée.
Alors maintenant, passons à l'articulation de l'article avec le concept de décentralisation. On peut observer une remise en cause de la décentralisation d'Internet. Même si Internet fonctionne techniquement de façon décentralisée, c'est-à-dire sans qu'un serveur unique ne contrôle tout, certaines plateformes concentrent une grande partie des services en ligne. Facebook, en tant qu'application web, en est un très bon exemple. D'après Stéphane Croza, le web a subi ces 10 dernières années un mouvement très important de centralisation. Facebook étant le deuxième site web le plus visité après Google en 2017, participe donc à ce mouvement. On peut se demander quels services centralisés propose Facebook. C'est simple, Facebook propose un réseau social, mais également une audience potentielle à des annonceurs. Un ciblage effectué en outrepassant le consentement de l'utilisateur est présenté comme plus performant car il contourne les règlements sur les données en invoquant l'intérêt légitime comme évoqué précédemment. Facebook propose aussi des statistiques sur le profil des personnes ayant cliqué sur les publicités ou ayant visité le site de l'annonceur. Facebook propose également l'audience grâce à son réseau social parcouru par un grand nombre de personnes et grâce aux applications rachetées comme Instagram. Facebook peut y mettre des publicités et a un contrôle absolu dessus. Il peut ainsi louer ses espaces publicitaires et a plus de facilité à faire des ajustements pour proposer un meilleur ciblage d'après eux et être plus attractif.
Facebook propose une audience plus large aux annonceurs avec son SDK, c'est-à-dire un kit de développement permettant à un développeur d'intégrer facilement des publicités dans une application. Imaginez être un développeur et vouloir vivre de votre métier tout en proposant une application gratuite et sans avoir de difficultés pour trouver des collaborations, des statistiques. Alors le SDK de Facebook permet cela sans problème. Ainsi, les annonceurs peuvent toucher un public encore plus large, n'utilisant même pas Facebook ou Instagram. Facebook aide également les propriétaires de sites web à mettre de la publicité sur leur site, ce qui leur permet de diffuser les annonces, mais aussi de récupérer encore plus de données. Enfin, Facebook propose d'utiliser ses bases de données comportant énormément d'informations, comme les transactions d'utilisateurs récupérées grâce aux terminaux de paiement, par exemple, d'après l'article, ainsi que d'autres informations déduites grâce à des comportements, pour cibler au mieux un certain public. Facebook récupère ces données grâce aux entreprises qui souhaitent des statistiques plus précises sur leur publicité en invoquant le fait que les cookies seuls ne suffisent plus car certains navigateurs comme Safari les retirent au bout d'une semaine. Cela fait de Facebook un outil regroupant beaucoup de services pour la publicité et donc très centralisé. Facebook étant une des plus grosses applications web, on constate alors que le web est très centralisé et donc la partie protocolaire d'Internet se centralise malgré la forte décentralisation matérielle.
Merci beaucoup pour votre travail et votre intervention. On va terminer par une musique que vous avez choisie, comme d'habitude, une musique donc sous licence libre CC by SA, c'est Codec, si je ne me trompe pas le nom, Codec, je ne sais pas comment ça se prononce, de Sylvie Krobova. Et voilà, une petite minute et 30 secondes pour poser vos questions. À tout de suite.
Co jsem se usadil na Chančanu, 10 000 věcí jsem se vzdal. Co jsem se usadil na Chančanu, 10 000 věcí jsem se vzdal. Žádné všední myšlenky nenosím teď v sobě. Bezstarostný píši své verše na stěnisko. Toku života jak nepřivázaný čluncem se
Et de retour sur Graphite 94.9 pour terminer cette émission avec vous, Henri et Myriam. On a donc plusieurs questions. Vous allez choisir celle de votre choix. Il y a Stéphane qui vous demande, est-ce qu'il existe d'autres modèles alternatifs au financement par la publicité, justement des services sur Internet qui, pour la plupart, comme vous l'avez rappelé, sont gratuits. Et Anaël demandait aussi si le modèle économique basé sur la publicité est compatible avec un Internet ou un web peut-être décentralisé.
Ok, je vais essayer de répondre à la question d'Anaël. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs types de publicité. Donc, on peut juste afficher une annonce dans la rue, mais on peut aussi récupérer un maximum de données pour faire de la publicité ciblée. Et dans ce cas, cette récupération ne semble pas compatible parce qu'il faut beaucoup de partenaires et accumuler énormément et proposer un service toujours meilleur avec le plus de données possible. Donc je ne pense pas que ce soit possible d'avoir des modèles plus décentralisés avec la publicité pratiquée par Facebook, par exemple.
Merci beaucoup pour ta réponse et puis pour les auditeurs et auditrices qui se poseraient la question. Vous pouvez, par exemple, c'est un exemple, aller voir sur le site du collectif Chaton, Chaton comme des petits chatons avec un S, chaton.org, pour voir des exemples de web un petit peu différents dont le financement ne repose pas sur la publicité. On va clore cette émission et on se retrouve dans 5 minutes pour une troisième émission de l'après-midi. Merci encore à vous, Henri et Myriam. Bon après-midi à celles et ceux qui nous quitte. À la prochaine. Salut.